إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc la lecture de cet épître de l'imam Abu Bakr al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, intitulé « Usul al-Sunnah », les fondements de la Sunnah, dans lequel il nous expose certains fondements de la croyance sunnite authentique. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, « وَمَا نَتَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثِ مِثْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَمِثْلُهُ والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معتل جهمي. الإمام الحميدي رحمه الله تعالى ensuite dit: tout ce qui est exprimé dans le Coran et le Hadith, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction des sens rapprochés, les Juifs disent « la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et comme les cieux seront pliés dans sa main droite, et tout ce qui est semblable à ceci dans le Coran et le Hadith, nous n'y ajoutons rien et ne l'interprétons pas, nous nous arrêtons où le Coran et la Sunna s'arrêtent et nous disons « le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Quiconque prétend autre que ceci est un négateur, jahmi. » L'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala expose ici un point très important de la croyance sunnite authentique, la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et ce point est la croyance sunnite à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance, on pourrait la résumer en une phrase, en disant: les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont acquis que du Coran et de la Sunna authentique, tels qu'ils sont mentionnés dans le Coran et la Sunna authentique. Ceci étant résumé, la croyance sunnite authentique à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsque les gens de la Sunna affirment pour Allah subhanahu wa ta'ala un nom ou un attribut, ils ne l'affirment pas d'après leur pensée, ni d'après leurs déductions, ni d'après leurs efforts de réflexion. Mais ils ne l'affirment uniquement d'après ce qui est mentionné dans les deux sources sûres de notre religion, qui sont le Coran et la Sunna authentique. Et inversement, il n'est pas permis de rejeter ou de renier ce qui est venu dans le Coran et la Sunna authentique, comme nom et attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il est plutôt obligatoire pour nous d'y croire tels qu'ils sont mentionnés dans le Coran ou la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous y croyons sans aucune altération, ni reniement ou négation, ni description du comment, ni assimilation. Donc ici l'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala a exposé le fait que la croyance des imams des salafs rahimahumullah ta'ala, qui est la croyance sunnite authentique, et d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont venus dans le Coran et la Sunna authentique. C'est pour cela qu'il a dit, rahimahullah, nous n'y ajoutons rien et ne l'interprétons pas. Nous nous arrêtons où le Coran et la Sunna s'arrêtent. Et sa parole, rahimahullah, nous ne les interprétons pas, cela ne signifie pas la négation du sens, car les gens de la Sunna affirment le sens connu des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sa parole, elle signifie « nous n'interprétons pas le comment des attributs d'Allah ». Et telle est la voix des gens de la sunna à ce sujet. En effet, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre Al-Jami', qui est son recueil de hadith, après avoir rapporté un hadith dans lequel sont mentionnés des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « la voix des gens de science en cela, parmi les imams, tels que Sofiane al-Thawri, Malik ibn Anas, Ibn al-Mubarak, Ibn Uyayna, Waqi' et d'autres, et qu'ils ont rapporté ces choses, puis ils ont dit, On rapporte ces hadiths, nous y croyons et on ne dit pas comment. C'est-à-dire, on n'interroge pas au sujet du comment. Ensuite, il dit, rahimahullah, c'est ce qu'ont choisi les gens du hadith, que ces choses sont rapportées comme elles sont venues. On y croit et on ne dit pas à leur sujet comment. On n'interroge pas au sujet du comment. Ceci est donc la parole de l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Et la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, elle est connue à ce sujet. Lorsqu'un homme est venu à lui, il a interrogé au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Cet homme alors dit à l'imam Malik, rahimahullah, comment s'est-il élevé? C'est-à-dire comment Allah s'est élevé, subhanahu wa ta'ala. Alors l'imam Malik, rahimahullah, il a baissé sa tête. Il s'est mis à suer de colère. Et les gens attendaient ce qu'il allait dire. Puis lorsqu'il a levé sa tête, rahimahullah ta'ala, il a dit cette phrase bien célèbre. Al-istiwa n'est pas inconnu. C'est-à-dire le sens d'al-istiwa, son sens est connu. Nous connaissons le sens de l'élévation. Le comment est inconcevable. C'est-à-dire que l'on ignore le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous est inconnu. Ensuite, il a dit, rahimahullah, la foi en celui-ci est obligatoire et interrogée à son sujet est une innovation. Je pense que tu es un homme mauvais. Puis l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a ordonné de faire sortir cet homme. Ceci est donc la voix de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quant au fait de questionner au sujet du comment des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est son madhhab, rahimahullah ta'ala. On écoute beaucoup parler en ce moment de l'école malikite. Ceci est la voix de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans la croyance. Et c'est sur cette croyance authentique qu'il convient de réunir les gens. Non pas comme ces trompeurs qui prétendent être malikites et veulent réunir les gens, comme ils le prétendent, sur le fiqh, sur la jurisprudence de l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, prétendant ainsi atteindre la cohésion et l'union. Mais quelle cohésion et quelle union peut-il y avoir si tu ne commences pas par enseigner aux gens la croyance sunnite authentique? Même si tous les gens adoptaient le fiqh, la jurisprudence de l'école de l'imam Malik, et qu'ils devenaient tous malikites dans la jurisprudence, mais qu'il y a parmi eux celui qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout, et qu'il y a parmi eux celui qui renie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, tu n'auras rien réuni en réalité. Car la base sur laquelle doit être réunie la communauté, c'est la croyance sunnite authentique. La croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle sur laquelle l'ont suivi ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Celle que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont enseigné aux tabi'in.
Puis eux l'ont enseigné
aux imams de la communauté. Et parmi eux, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Quant aux questions de fiqh, bien qu'elles soient très importantes, ce sont des questions secondaires qui viennent au second plan après la croyance authentique. Vous comprendrez donc que cette nouvelle tendance qui est apparue récemment chez les francophones, en réalité, elle n'a pas pour but d'unir les gens. Ils prétendent qu'ils veulent ainsi réunir les gens. Mais en réalité, leur objectif, ce n'est pas de réunir les gens, mais plutôt leur objectif, c'est de rompre les liens entre la communauté et les savants de l'islam parmi les contemporains. Sous quel prétexte? Sous prétexte que nombre de ces savants ne sont pas sur le même madhab. Ils ne sont pas malikites. Donc nous sommes malikites et nous revenons aux savants malikites pour nos questions. Voilà leur objectif. Rompre le lien entre la communauté et les savants de l'islam parmi les contemporains. Alors que le madhab dans le fiqh, dans la jurisprudence, en réalité, il n'a pas d'influence sur la base qui est la croyance, car il n'y a pas de divergence à ce sujet. Donc peu importe ton madhab, tu peux revenir aux savants de la sunna, quelle que soit leur école dans le fiqh. Car le plus important, c'est la croyance. C'est par cela qu'ont commencé l'ensemble des messagers, alayhim salatu wa salam. C'est par cela qu'ordonné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'il les envoyait prêcher les gens, appeler les gens à l'islam. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum allahu ta'ala, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal en tant que prédicateur au Yémen. Il lui a dit, tu te rends chez un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah.
S'ils acceptent cela de toi, alors informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit. Par quoi il a commencé ? Par la base, la croyance, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc la chose par laquelle tout prédicateur doit commencer et par laquelle on peut espérer réunir la communauté. Sur la croyance authentique, sur l'appel des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Revenons maintenant à la parole de l'imam al-Humaydi rahimahullah. Il a mentionné en exemple deux des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attribut des deux mains et l'attribut de l'istiwa, l'élévation au-dessus du trône. Donc l'attribut des deux mains, il est prouvé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 64 de surat al-Ma'ida, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala « وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ » Les Juifs disent « La main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée et qu'ils soient maudits pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il accorde de ses dons comme il veut. » On voit donc à travers ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a très clairement affirmé avoir deux mains. Il est donc obligatoire pour le musulman de croire en cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala qu'il a deux mains. Et on doit croire en cela comme on a dit sans altération, sans négation, sans description du comment et sans assimilation. Sans altération, c'est-à-dire que l'on n'altère pas le sens de cet attribut par exemple, comme en le détournant de son sens apparent. Mais nous y croyons tel qu'il est venu dans le Coran. On ne dit pas que le sens des deux mains, ce sont par exemple les deux puissances ou les deux bienfaits, comme l'ont dit certains parmi les gens de l'innovation, qui se sont égarés au sujet des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais nous disons qu'il a deux mains, comme il l'a lui-même affirmé dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala. Et on doit croire à cela, on a dit, et on doit croire en cela, on a dit, sans négation. C'est-à-dire que nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, comme il l'a lui-même affirmé dans son livre, sans renier cela, comme l'ont fait les négateurs, parmi les Jahmiya, contre qui l'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala nous a avertis ici. On doit croire en cela également sans description du comment et sans interroger au sujet du comment. Mais nous disons, comme a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, la main est connue, le sens de la main est connu. Tout le monde sait ce qu'est une main. Le comment est inconcevable, c'est-à-dire qu'il est inconnu pour nous. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le décrire. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas informés à ce sujet. La foi en cela est obligatoire. Il est obligatoire pour nous d'avoir foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Et interroger à ce sujet est une innovation. C'est-à-dire qu'il fait partie des innovations rejetées dans la religion d'interroger au sujet du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces attributs, il y a les deux mains. Enfin, nous y croyons sans assimilation. C'est-à-dire, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Nous savons ce qu'est une main, mais nous disons que ces mains conviennent à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et elles ne ressemblent en rien aux mains de ses créatures. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit dans son noble livre ? « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir » Il n'y a rien de semblable à lui. Et c'est lui, As-Sami' al-Basir, celui qui entend tout et celui qui voit tout. Donc dans la première partie du verset, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien de semblable à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute ici les assimilateurs, ceux qui assimilent entre les attributs du Créateur et les attributs de sa création. Mais nous disons, rien ne lui ressemble. Rien n'est semblable à lui. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Les créatures ont des mains. Mais les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala conviennent à sa majesté et ne sont pas semblables aux mains de ses créatures. Et dans la deuxième partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les négateurs. Ceux qui ont renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les Jahmiya. Il a donc dit, « Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien de semblable à lui. Wa huwa as-sami'ul basir. » Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Il a donc renié le fait qu'une chose lui soit semblable, et il a affirmé pour lui-même quoi ? Lui, il a vu, subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui correspond à sa majesté. Allah subhanahu wa ta'ala a donc des attributs qui conviennent à sa majesté. De même que les créatures, elles ont chacune des attributs qui leur conviennent, en fonction de leur essence, en fonction de leur réalité. Chaque créature a des attributs qui conviennent à son essence. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est bien au-dessus de sa création? Ensuite, l'imam al-Humaydi rahimahullah a mentionné parmi les attributs d'Allah, al-istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Il a dit, rahimahullah, et nous disons, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Et cet attribut, Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé dans de nombreux versets dans son noble livre, comme dans surat al-A'raf, dans surat Yunus, dans surat al-Ra'd, ou encore dans surat Taha, et dans d'autres versets de son noble livre, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également affirmé cela dans sa sunna, comme l'ont rapporté les deux imams, al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a écrit un livre avant de créer la création. Ma miséricorde a certes devancé ma colère, et cela est auprès de lui, au-dessus du trône. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Et on dit pour cet attribut la même chose que nous avons dit pour l'attribut des mains. Nous y croyons sans altération, ni négation, ni description du comment, ni assimilation. Et il en est de même pour tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc, en résumé, la croyance unique et authentique à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.